C'est merveilleux de pouvoir terminer un dimanche en étant sous le regard de notre Dieu et en étant assuré de son amour. C'est merveilleux aussi de savoir que si nous sommes en Christ, si nous sommes réellement chrétiens, nous sommes en lui, et que nous sommes en lui comme dans une sphère. Il est devant nous, il est derrière nous, il est au-dessus de nous, il est au-dessus de nous. Alors restons en nous. Comme l'a dit notre frère, oui, il s'attend bien que ce ne soit pas nous qui restons, mais laissons le Seigneur qui a vaincu tous nos ennemis. Et c'est seulement en demeurant en lui que nous aurons la victoire. Oui, nous allons continuer d'apporter ce message que nous avons, auquel nous avons donné ce titre, les ennemis du chrétien, mais nous voulons laisser une fois de plus Saint-Esprit structurer ce troisième message afin qu'il puisse correspondre à des besoins précis et réels de nos cœurs, à nous qui sommes réunis dans ces derniers instants de cette journée. Aussi, nous voulons encore une fois nous recueillir. Ô Dieu notre Père, nous savons que nos instants sont comptés, et c'est pourquoi nous voudrions te supplier que ce soir, tu te manifestes par ta puissance et par ton esprit au milieu de nous et que la prédication ne soit pas une prédication de paroles seulement, mais une démonstration de ta puissance répondant à chaque besoin de nos cœurs et nous apportant ce dont nous avons tant besoin, le repos, la paix, la joie, l'assurance de la délivrance. Une délivrance qui sera entière et totale. Si nous nous abandonnons à toi et si, comme nous venons de l'entendre, nous acceptons non pas de vouloir monter, mais de descendre. Qu'il en soit ainsi ce soir, pour la gloire de Jésus. Amen. Oui, mes amis, j'ai été frappé par ce que vient de dire notre frère en disant que dans la Bible, si j'ai bien compris, les vraies montées, c'était des descentes. Ça m'a rappelé un souvenir d'il y a 35 ans, à la suite d'une convention où je devais apporter le message de la parole de Dieu, je vois encore une femme qui vient me demander un entretien et qui me dit, oh, vous comprenez, monsieur Rassimilia, un abîme entre ce que je suis et ce que je voudrais être. Et c'était poignant de l'entendre. On avait l'impression que la parole de Dieu avait touché son cœur et sa conscience, mais que maintenant elle se voyait si indigne qu'elle était presque désespérée. Il y a un abîme entre ce que je suis et ce que je voudrais être. Et je lui dis, mais si je peux traduire vos expressions, ça veut dire il y a un abîme entre vous et le Seigneur. Elle dit oui, exactement. Et je lui dis, mais est-ce que votre vision est fausse parce que cet abîme, vous le voyez de cette façon-là. Vous, vous êtes au fond du gouffre, et puis vous voyez le Seigneur au sommet de la montagne. Si vous vous dites, je voudrais être où il est, je voudrais lui ressembler, alors vous essayez de grimper, de gravir. Et comme nous étions en Suisse et qu'on connaît ce que c'est que les pierriers, les montagnes, qui ne sont pas des montagnes à bâche, hein, mais des hautes montagnes, et il faut quelquefois faire de grands efforts pour grimper, eh bien, vous essayez de grimper en vous, Et puis, voilà, vous êtes peut-être un peu cardiaque, ou vous vous étouffez, vous vous arrêtez, après vous glissez sur un pierrier, et vous êtes de nouveau en bas, puis vous recommencez, exactement, et vous êtes épuisé. Eh bien, votre vision est fausse. Le Seigneur n'est pas là-haut, il est plus bas que vous. C'est vous qui êtes trop haut. Car le Seigneur n'est pas resté au sommet de la gloire. Il est descendu au plus profond des abîmes, puisqu'il est dit dans un psaume, le psaume 42, « Un abîme appelle un autre abîme. À la voix de tes cataractes, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. » Oui, l'abîme de nos péchés a fait descendre le Seigneur du sein de la gloire, de la sainteté. Et cet abîme de nos péchés a provoqué pour lui un autre abîme, l'abîme de ses souffrances, qui a englouti l'abîme de nos péchés. Et l'abîme de ses souffrances a été englouti par l'abîme de son amour. De sorte que lui nous a aimés d'un tel amour qu'il est descendu plus bas que nous ne sommes. De sorte que quand nous ne sommes plus en communion avec Jésus, ce n'est pas que lui s'est éloigné de nous, c'est que nous, nous nous sommes élevés à cause justement de cette chair qui est toujours en nous et qui veut toujours se glorifier ou qui pense toujours pouvoir faire des efforts pour être mieux, pour plaire davantage au Seigneur. Quand ça ne va pas, je sais très bien que c'est moi qui me suis élevé. Et alors, qu'est-ce qui m'est demandé? Fais-t-il une main. Et j'ai toi dans mes bras. Je suis plus bas que toi. Oui, mais c'est le saut de la foi, se jeter là, dans l'abîme. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Au-dessous de vous, dans les bras éternels. Et tu connaîtras la vie. C'est de vous abandonner votre besoin aujourd'hui, ce soir, pour que vous puissiez vaincre tous vos ennemis. Abandonnez-vous au Seigneur. Jetez-vous dans ses bras. Il est plus bas que vous et croyez bien qu'il vous aime. Je suis grand-père, quelques-uns le savent. Hein. Eh bien, j'ai eu des petits-enfants et j'en ai encore. Si je les mettais sur le mur et que je leur dise « saute dans les bras de grand-papa », eh bien, qu'est-ce qu'il pense, l'enfant, qui me connaît? Eh bien, il se dit « il est tellement méchant que quand je me jetterai, il va faire un saut de côté pour que je m'écrase ». C'est exactement ça. Hein. C'est ça qu'il dit, l'enfant? Non, il est confiant que si je lui dis de sauter, il va sauter. Et il vient sur mon cœur. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça. Alors, lisez la Bible avec un cœur d'enfant. Confiez-vous dans le Seigneur. Abandonnez-vous. Dites, viens maintenant, Seigneur, je suis assez fatigué. C'est vrai, hein? Alors, il vous dit, venez à moi. Tout ce qui est fatigué, qui est chargé, moi, je me donnerai du repos. Je demande au Seigneur, j'ai demandé de tout mon cœur, que réellement dans cette soirée, vous puissiez trouver du repos. Même si nous avons envisagé tous ces ennemis du chrétien, ces puissants ennemis du chrétien plus forts que nous, mais l'Écriture est là, et vous allez relire ces passages. Chapitre 23 de l'Exode, chapitre 33, pour être aussi bien assuré que cet ange qui va marcher devant nous, qui va nous donner la victoire, comme il voulait la donner à Moïse et au peuple d'Israël, c'est le Seigneur lui-même. Nous allons le croire. Et je suis tellement reconnaissant que mon frère ait été conduit à vous lire tous ces textes dans le Nouveau Testament qui ne font que confirmer ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament, puisque, en effet, l'histoire d'Israël est en quelque sorte notre histoire, et que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament l'a été écrit pour nous servir d'exemple, afin que nous recevions une instruction. C'est pourquoi j'ai demandé aussi au Seigneur qu'il vous ouvre réellement les Écritures et qu'un des résultats de cette conférence de 1982 soit de vous avoir redonné, sinon de vous donner le goût de l'Ancien Testament, le goût des Écritures, car quand Jésus ressuscité marchait sur le chemin d'Emmaüs avec les deux disciples qui ne l'avaient pas reconnu et qui étaient déçus et qui avaient espéré que c'était lui qui allait délivrer Israël et puis qui disent à ce voyageur inconnu leur déception, nous espérions que c'était lui qui devait délivrer Israël. Et voilà que plus tard, quand le Seigneur s'est révélé à eux dans la fraction du pain, dans ce village d'Emmaüs, que disent-ils? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas en chemin lorsqu'ils nous expliquaient les Écritures, la plus fantastique étude biblique qui n'a jamais été faite et qu'on n'a pas enregistrée? Jésus expliquant aux disciples d'Emmaüs dans toutes les Écritures. Et qu'est-ce que c'était les Écritures? L'Ancien Testament, les choses qui le concernaient. Alors, quand vous lisez l'Ancien Testament, posez-vous tout de suite la question, mais qu'est-ce qui concerne Jésus? Qu'est-ce que j'apprends au sujet de Jésus? Au sujet du Seigneur. Car le Seigneur de l'Ancien Testament, qui est appelé l'Éternel, c'est le Seigneur du Nouveau Testament. Mais avant son incarnation, toutes ces théophanies, c'est-à-dire toutes ces manifestations du Fils de Dieu, du Seigneur de gloire dans l'Ancien Testament, eh bien, c'était les manifestations du Fils avant son incarnation, avant qu'il ne prenne un corps. Alors, vous retrouvez le Seigneur dans l'Ancien Testament depuis les premières pages de la Genèse, cette postérité de la femme qui écraserait la tête de qui? De l'ennemi. C'est pas la femme qui écrasera le serpent. C'est la postérité de la femme, donc le fils de Marie, qui écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire sa puissance, tandis que le serpent blesserait le libérateur au talon, c'est-à-dire l'atteindrait dans la partie la plus basse de son être. Le talon, c'est la partie avec laquelle on touche la terre. Il est donc déjà dit dans le chapitre 3 de la Genèse, verset 15, que le Seigneur, le libérateur, serait blessé. C'est sa crucifixion qui est annoncée. La blessure au talon, c'est la crucifixion du Seigneur. Mais c'est par cette mort qu'il entrerait dans le royaume de la mort et qu'il lierait l'homme fort, comme il l'est dit dans l'Évangile, qu'il pillerait ses biens et qu'il accomplirait notre merveilleuse délivrance. Lui est descendu au plus profond des abîmes. Alors demeurons en lui. Et si nous ne sentons plus sa présence, ne pensez pas que c'est lui qui s'est éloigné de vous, mais c'est vous qui vous êtes éloigné de lui. Et lui est toujours prêt à vous recevoir, à vous accueillir. Souvenez-vous de la façon dont il a parlé de l'enfant prodigue, cette parabole que l'on devrait appeler plutôt la parabole du Père. Car si vous lisez cette parabole, ce qui nous bouleverse le plus, c'est surtout l'amour du Père, qui attend son fils, qui attend ce retour, qui va sur sa tour regarder s'il ne revient pas. Et il a tellement espéré le retour de cet enfant ingrat qu'il a déshonoré, qu'il lui a fait tant de peine, que dès qu'il voit cet homme en haillon qui vient, cet homme qui est méconnaissable, mais ce n'est pas son fils, lui sait que c'est son fils. Son cœur lui dit que c'est son fils. Et parce qu'il l'a toujours aimé, même quand il le déshonorait, il court à sa rencontre. Il le prend sur son cœur. Je me souviens, j'avais 20 ans quand je parlais à des prisonniers dans une prison de Suisse. C'était un dimanche et j'avais ces jeunes gens qui étaient là en prison et qui écoutaient ce message sur l'enfant prodigue. Et quand nous sommes arrivés à ce moment où il serre son enfant perdu sur son cœur, sur les 15 qui étaient là, il y en a 12 qui pleuraient. Et pourtant des jeunes qui étaient durs, où le directeur m'avait dit, ils ne vous écouteront pas, ils vous demanderont de l'argent, ils vous demanderont du chocolat, ils vous demanderont des cigarettes. Ils n'ont rien demandé de tout ça. Ils ont dit, vous pourriez pas revenir le mois prochain pour nous parler. Et c'est ainsi qu'a commencé un groupe biblique dans cette prison, parce que si je pouvais pas leur donner du chocolat et de l'argent ou des cigarettes, je pouvais demander au Seigneur qu'il me donne le moyen de leur procurer une Bible à chacun, pour qu'ils la lisent chaque jour. Et s'il y a des prisonniers qui se sont mis à lire la Bible chaque jour, pourquoi ne la liriez-vous pas? En reprenant le goût de la parole de Dieu. Pour les Israélites, il est dit que cette parole avait le goût d'un gâteau au miel d'abord. Et ensuite, ils disent qu'elle avait plus que le goût d'un gâteau à l'huile. Et finalement, ils disent, notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Oh, mes amis, c'est bien dit. Comme nous ressemblons aussi à ces gens du on la connaît la parole, si on a déjà lu ce chapitre. Mais vous ne trouvez pas que chaque fois qu'on relit un chapitre, on y découvre quelques merveilles. La parole de Dieu est vivante. Elle est pénétrante, elle est opérante, plus qu'aucune épée à deux tranchants. Elle fait la séparation, justement, de ce qui est du domaine de l'âme et du domaine de l'esprit. Et elle va jusqu'aux jointures et aux moelles. Et c'est cette parole qui est réellement importante. Et ce que nous voudrions réellement, c'est qu'il vous reste cette parole. Et que vous ne soyez pas seulement de ceux qui disent « Oui, nous croyons au témoignage de la parole au sujet de notre salut », mais que cette parole ait une autorité sur vos vies dans le quotidien. Que vous ne puissiez plus rien faire, que vous ne puissiez plus rien dire sans être influencé par cette parole. Et que cette parole amène toutes vos pensées captives à l'obéissance. Parce que il y a eu un jour où sur la terre, le cœur du Père a pu s'ouvrir sur et désigner un homme, Jésus, au bord du Jourdain, en disant, c'est mon fils, bien-aimé. En qui j'ai mis tout mon plaisir, mon affection. Et c'est lui que nous devons écouter. Et si réellement vous apprenez à l'écouter, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, eh bien vous serez heureux, vous serez bénis, et vous serez sûr d'arriver au lieu que le Seigneur a préparé pour vous. Est-ce qu'il y a des âmes ici qui doutent de leur salut? Est-ce que ce serait ma spécialité, là, d'amener des gens à douter de leur salut? Oh, mes amis, que je suis triste. Non, mais ce que nous voudrions, c'est que personne ne vive dans l'illusion et se croit sauvé alors qu'il ne l'est peut-être pas. Alors que le Seigneur ne voudrait qu'aucune âme ici soit perdu. Il veut que tous ses fils soient sauvés et assurés de leur salut. Mais croyez-le, hein, ce n'est pas la connaissance de l'assurance de son salut qui me sauve. C'est pas l'assurance du salut qui me sauve, c'est le salut. Et le salut, c'est ce que notre frère nous a souligné, c'est une connaissance. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose. Hein. La vie éternelle, c'est quelqu'un. Et la vie éternelle, c'est une connaissance, c'est une relation, c'est une union, c'est une identification avec quelqu'un. C'est ici la vie éternelle qu'il te connaît. Et c'est une connaissance quotidienne. On est sauvé par la foi pour vivre ensuite une vie de foi. tous les jours, une foi renouvelée dans la personne du Seigneur. Et c'est pourquoi cette connaissance du Seigneur, elle doit grandir en nous chaque jour. C'est là tout notre salut. Laissons le Seigneur se manifester dans nos vies. Donnons-lui toute la place, donnons-lui les clés, et qu'il puisse se sentir chez lui, chez nous. Et puis, une fois que nous lui avons remis l'appartement, alors il nous invite à rentrer. Mais c'est lui propriétaire. Alors nous sommes chez lui, en nous. Mais chez lui, en nous, c'est ça qui est merveilleux. Il y a des gens qui disent, oh, mais si je pouvais avoir de la puissance. Et ils demandent davantage de puissance, comme si ça pouvait venir de l'extérieur. C'est pas de la puissance que vous avez à demander. Ce n'est pas de nouveaux dons que vous devez demander. Faites venir la déménageuse pour faire partir tous les vieux meubles. Et ces vieux meubles, ils sont dans les Colossiens, notre frère en a lu quelques passages. C'est encombré, ma vie. Il y a des choses qui doivent s'en aller. Pour que le Seigneur puisse s'installer avec son mobilier à lui. Et me faire rentrer après dans son installation. À lui. Et c'est tout différent. Vous n'aurez pas peur qu'il augmente le prix de la location. Une fois qu'on s'est abandonné à lui, c'est lui qui prend en main nos intérêts. Voyez-vous, un jour, il m'a dit avec sa douceur inexprimable, alors j'étais dans une grande souffrance, occupe-toi de moi. Je m'occuperai de toi. Alors on dit, mais c'est vraiment du Seigneur. Comment comprenez qu'une prophétie vous vient du Seigneur? J'y crois. Une parole prophétique, c'est une parole qui vous édifie, qui vous exhorte et qui vous conjure. Il doit toujours y avoir ces trois éléments. Vous devez être édifié, c'est-à-dire fortifié, aider, construit, non pas détruire, hein, construit, et puis exhorté. Ça vous réveille. La parole de Dieu, elle a pour effet de nous réveiller. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dort aussi. Je me souviens qu'une fois dans une prédication, on avait dit, tout en prêchant sur Jonas, voilà que le capitaine dit à Jonas, que c'était la dormeur. Oh, on entend un cri. Le type s'était réveillé dans la salle. Il a cru qu'on l'interpellait. C'était la dormeur. Il a pris la parole pour lui. C'est évident qu'on peut être fatigué. Un peu, c'est les clous. Mais la parole a cette puissance pour nous réveiller. La parole est merveilleuse. Que nous puissions l'aimer et apprendre justement à grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et ce que je voudrais vous dire ce soir très brièvement, au sujet de ses ennemis, et de ses ennemis que le Seigneur a vaincus, et qui ne doivent plus nous faire douter, que nous arriverons finalement au lieu. Je lui disais, est-ce que vous doutez de votre salut? Non. Vous n'avez pas à douter de votre salut si vous avez été régénéré. Si vous êtes né de nouveau, et je vous le dis, dans votre réunion d'évangélisation où soi-disant vous vous seriez converti, est-ce que réellement vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez passé par la régénération? Ou bien est-ce que vous avez été seulement impressionné par la prédication, ou vous vous souvenez surtout de la belle musique douce? C'était des cantiques qui étaient là pour vous faire, pour vous conditionner, pour que vous puissiez dire oui, n'est-ce pas? Si c'est ça, évidemment, alors, vous avez participé à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur la salle, certainement. Les cantiques, c'était des paroles vraies. Mais ce sont vos émotions qui ont été touchées. Ce n'est pas quelque chose de profond qui s'est fait. Et alors, vous avez dit peut-être oui. Vous avez pris une décision, mais encore, qui c'est qui a pris cette décision? On vous demande de prendre une décision, c'est souvent charnel. Alors je prends la décision. C'est le Seigneur qui doit vous saisir. Alors est-ce que vous vous êtes laissé ce soir-là?
saisir par Jésus-Christ. Et où va-t-il nous conduire, Seigneur? Pas d'ailleurs où il est allé. Et où est-il allé? À la croix. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? La mort. Et qu'est-ce qui vous arrive quand il vous a saisi? Votre mort. Vous voyez comme nous nous rejoignons avec mon frère. Hein? Mais est-ce que Jésus est resté dans la mort? Non, il est ressuscité. Alors, il vous entraînait aussi dans sa résurrection. Et maintenant, si vous vivez, c'est sa vie en vous. Si quelqu'un est en crise, dit l'apôtre aux Corinthiens, au chapitre 5 de la deuxième épître, c'est, non pas comme le dit Second, mais comme le dit Darby vraiment, c'est une nouvelle création, pas créature, on est toujours la même créature. Mais c'est une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles et toutes sont de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Ces choses nouvelles, c'est pas nous qui sommes arrivés à les former, à les faire surgir dans notre chair. Ce sont les choses qui sont de Dieu. Toutes choses sont de Dieu. Et qui nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et qui nous a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous avons maintenant un message et un témoignage. Nous pouvons dire aux hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Mais voilà, ce qu'on apprend, c'est que le diable, un de ses grands ennemis, a tellement de rues et qu'il a travaillé dans ce monde pour que nous ayons au fond des caricatures de l'ennemi, afin que les gens n'y croient plus. Je ne sais pas quelle est votre représentation du diable. Je ne sais pas comment vous vous le représentez. Vous n'avez pas essayé de vous interroger. Mais je sais qu'en tout cas, pendant de très longs siècles, on a montré le diable au peuple comme ayant des pieds fourchus, une petite queue, des cornes, et on le voit en habit rouge avec une fourche pour vous piquer aux fesses et vous conduire plus vite dans le grand brasier. Hein. Et on vous l'a représenté là comme au fond le chef de l'enfer. Non, il n'est pas le chef de l'enfer du tout. L'enfer a été préparé pour le diable. Et ses anges, il y sera, mais c'est pas lui qui a le tour. Non, il y sera comme un autre. Mais mes amis, c'est une chose terrible. On nous a fait une caricature du diable. Si bien qu'aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, comme on l'entend si souvent, à l'âge adulte, chers amis de Québec, vous êtes dans des adultes. Nous sommes arrivés à l'âge adulte. Alors fini. Ces enfants qui cachent. Mais on est allé si loin que maintenant c'est la liquidation du diable. On n'y croit plus. On nous l'a tellement caricaturé que vous n'y croyez plus. Croire encore au diable, et même les prêtres n'y croient plus. Et les pasteurs beaucoup non plus. Et nous, vous savez comme il est? Il a la figure que le monde est. Il est pris. Il sent pas le bouc. On nous l'a montré toujours comme un vieux bouc. Un puant! Pas vrai! Il est très parfumé, je dirais qu'il sent presque la cocotte. Il a le visage que le monde aime. Il faut bien qu'il vous séduise. Il est éminemment. Et il est très croyant, car il n'a jamais pris du temps pour nier l'existence de Dieu. Je n'ai jamais vu Satan nier l'existence de Dieu, notre frère a cité le verset. Les démons tombent devant lui, ils croient en Dieu, ils ne perdent pas leur temps à vouloir nier l'existence de Dieu. Alors si vous me dites, mais moi je crois en Dieu, c'est très bien, mais je n'ai pas fait avancer qu'un diable. Vous avez la croyance en Dieu, je n'ai pas fait avancer qu'un diable. Est-ce que tu trembles devant lui? Parce que je tremblerai. Dieu, si c'est Dieu, il doit être bon, c'est le bon Dieu. Oui, je crois que Dieu est bon, mais il n'est pas le bon Dieu, comme on en a fait. Dieu est bon, mais Dieu est saint. Et comme nous l'avons vu, son nom est en lui et il ne pardonnera pas l'iniquité. Il ne passe pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous voulez savoir ce que c'est que la sainteté de Dieu, retournez à la croix et demandez à Dieu de vous donner par son esprit cette vision de Jésus sur la croix. C'est péché ou non. Et dans ce moment suprême, où lui qui était pourtant sans péché est couvert de nos péchés, il connaît réellement l'abandon suprême. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si vous voulez savoir ce qui vous serait arrivé, si vous persévériez dans votre incrédulité, c'est qu'un jour vous connaîtriez cet abandon qui est la damnation. Eh bien oui, le Seigneur a connu cet abandon de Dieu parce qu'il était fait péché pour nous. Et c'est là que nous est révélée l'horreur du péché. Et il nous faut redécouvrir cette horreur du péché, non pas pour rester culpabilisé, mais pour pouvoir louer le Seigneur et apprécier cette merveilleuse délivrance que nous avons en Jésus. Mais maintenant que vous connaissez le vrai visage du diable très croyant, très religieux, mielleux, et qui est d'accord avec beaucoup de choses que vous pouvez faire comme chrétien, mais bien sûr, vous pouvez faire, ça ne gêne à personne, vous ne faites de mal à personne. En êtes-vous sûr? Quand vous dites, moi je fais de mal à personne, ce que je fais, ça fait de mal à personne. Ça fait du mal à ton fils, à ton petit-fils, à ton arrière-petit-fils, jusqu'à la quatrième génération. Toi qui t'excuses en disant ce que je fais, ça pourrait peut-être me faire du mal à moi, mais ça fait du mal à personne. Tu n'as pas le droit de te faire du mal à toi-même. C'est pourquoi je demande au Seigneur qu'il vous libère aussi autant de la fumée que de l'alcool et d'autres choses. Car le Seigneur veut faire de vous des saints, non pas simplement quand vous serez dans la gloire, mais déjà sur la terre. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Jean-Paul II vienne canoniser quelques Québécois. Pour être saint, vous êtes saint maintenant en Jésus-Christ. C'est lui qui est votre sanctification. C'est lui qui est votre justification. C'est lui qui est votre force, votre rédemption. C'est lui qui est votre salut. Donc le salut, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et j'aime si souvent à le dire, quand le vieillard Siméon a eu Jésus dans ses bras, qu'est-ce qu'il a dit? Mes yeux ont vu ton salut. Il a vu le salut dans ses bras. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut, ce n'est pas un billet de chemin de fer première classe au wagon lit pour le ciel. Maintenant j'ai mon salut, j'ai dit, hein. Je peux rien risquer. Ou bien, mon salut, eh bien, c'est mon passeport signé. J'ai le visa. J'ai mon passeport. Oh, on nous faisait chanter il y a 53 ans. C'était pas le plus beau des cantiques, ça c'était faux. J'ai mon passeport, c'est pas payé. Il est signé par mon... Et voilà, on nous a chanté ça. Alors, on avait notre passeport. Ou alors, notre assurance contre l'incendie éternel. Une police d'assurance contre l'incendie éternel. On n'ira pas en enfer, on est des sauvés. Zéra. J'ai dit quelquefois, oui, on est des sauvés. Autant que je sois rapide, alors. Quand j'aime bien les gens qui s'appellent. Mais voyez-vous, faites attention avec ce mot, je suis un sauvé. Les autres, c'est ce qu'ils sont. Vous savez, nous aurons des surprises au ciel. On l'a dit, vous le savez, hein, ça, on n'en aura pas de surprise. Celle de ne pas y trouver ce que vous voulez. Celle d'y trouver beaucoup de gens qu'on avait mis en enfer. Ce qui est bon, ce que vous aimez. Et puis la troisième surprise, c'est de vivre. Parce que quand on se connaîtra, comme nous avons été connus, on dira, c'est pas possible que j'y sois. Vous saurez ce que c'est que la grâce. La grâce, si vous êtes là, dans le ciel, si vous êtes arrivé, c'est par la grâce de Dieu. C'est sa pure grâce, alors ne doutez pas de la grâce. Et je veux croire que réellement, vous êtes maintenant des régénérés. Et ceux qui sont régénérés sont des personnes qui ne peuvent pas perdre leur salut. On ne perd pas son salut. On l'a ou on l'a. Et ces textes, je le cite encore, parce qu'il est très important, où il est dit que la truie est retournée à son bourbier, et que le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Vous n'avez jamais entendu Jésus parler de ses enfants comme étant des truies. Il n'est pas un berger qui rassemble des truies, ça serait un porcher. Il n'est pas un porcher, il est un berger qui rassemble ses brebis. Mais nous, nous devons faire attention, je le répète, de ne pas faire de nos réunions du lavage de truies. Hein, parce que la parole de Dieu, quand on l'emploie, c'est une eau qui lave. Hein. C'est vrai. La parole de Dieu est de une eau qui lave. Nous sommes purifiés par le lavage d'eau, par la parole. Mais ça ne doit pas être seulement un lavage extérieur. Ça doit nous pénétrer. La parole doit nous pénétrer. Ça ne doit pas être de l'eau sur les plumes d'un canard. Hein. Nous restons toujours canards, alors. Et il faut que nous soyons pénétrés. Sans ça, c'est du lavage de truie. Et alors, la truie, quand elle ressort, elle a toujours la même nature. Quand elle voit le monde, elle se vautre de nouveau dans son bourbier. Mais la truie était restée truie. Elle n'avait pas changé de nature. Et le chien était resté chien. Vous n'avez jamais vu Jésus dire, venez à moi des petits chiens. C'est parce qu'il n'aime pas les chiens. Mais ce ne sont pas des sauvés. Parce qu'il est dit, dehors sont les chiens. Les chiens représentent ceux qui n'ont pas vu de lui. Dehors sont les chiens et les fornicateurs. Alors, le chien est retourné à ce qu'il avait voulu. Sa nature est restée la même. Et comme l'a dit notre prêtre, notre chair ne s'améliore pas. Et c'est tellement vrai que vous avez là l'exemple de David, qui a fait les plus beaux psaumes, mais qui, à un moment donné, l'a pas veillé, et sa chair, après avoir écrit tant de beaux psaumes, l'a conduit à tomber dans l'adultère, et même dans le crime, par main interposée. Si vous avez encore des doutes au chapitre, au sujet du chapitre 7 des Romains qui vous a été cité, étudiez la vie de David et vous serez convaincu par cet exemple de l'Ancien Testament que la chair ne s'améliore pas. Et ce n'est pas d'avoir composé les plus beaux psaumes, les plus belles prières qui font que je peux être gardé si je ne suis pas à la bonne place quand le Seigneur le veut. J'ai à vivre dans la dépendance du Seigneur. Donc attention, il y a une caricature du diable pour qu'on ne croie plus au diable. Il y a une caricature aussi du monde. On vous fait un tableau du monde en vous disant, mais vous savez, il y a tant de belles choses et des choses qui ne sont pas mauvaises dans le monde. Quel mal est-ce que ça peut me faire? Et puis moi, j'ai ces tendances, j'ai ces goûts pour cela, et pourquoi est-ce que je ne les satisferai pas? Ça n'empêche pas mon salut, oui, mes amis, mais c'est un piège pour vous. Et vous vous mettez sous le joug du monde. Et vous savez que le joug du monde, contrairement à ce que vous croyez, c'est un joug dur à porter. C'est un joug terrible, c'est un joug écrasant. Seul le joug de Jésus est lourd. Oh, je me souviens toujours d'une femme dans la principauté de Monaco, là où était grâce de Monaco, la princesse qui a une fille dont on parle beaucoup, hein, Caroline, et puis l'autre que vous connaissez aussi, son cœur balance entre deux personnages, je ne sais pas qui elle veut épouser finalement. Alors voilà, les journaux parlent de tout cela, vous avez cela peut-être à votre télévision, quoique je sois persuadé que vous n'écoutez que les émissions religieuses. Oh, ça, j'en suis absolument convaincu. Vos yeux ne voient que nos frères bien-aimés. Et vous avez la télévision uniquement pour cela. Évidemment, pour les petites nouvelles. Hein. Mais le reste, c'est bouclé. C'est noir chez vous. Là, c'est noir. Parce que vous avez bien compris que on ne met pas devant ses yeux ce qui nous fait tomber dans le péché. Vous avez compris. Vous avez saisi. On ne met pas devant nos yeux, devant les yeux de nos enfants, ce qui pourrait les faire tomber dans le péché, et ce qui pourrait leur apprendre la violence. Comment voler, comment peut-être tuer, et surtout comment ne pas faire tant par la police. Vous connaissez tout ça. Mais je me souviens qu'on nous disait comme propagande autrefois, au sujet de la télévision, le monde sous votre toit. C'est pour cela qu'il y a même, et je ne voudrais pas blesser mes frères, des médecins que je connais qui n'ont pas voulu la télévision chez eux, ou qui l'ont enlevé, qui l'ont fait disparaître, parce que cette télévision a été non pas un moyen simplement d'écouter l'évangile, et je bénis Dieu parce qu'on peut employer ce moyen pour annoncer l'évangile, mais c'est devenu un moyen de dispute. La femme voulait son programme, le mari voulait le sien. Alors il en a fallu deux de télévision. Et comme on ne peut pas écouter ça dans la même chambre, on a fait chambre séparée. Puis ensuite les enfants ont voulu aussi leur programme. Alors il a fallu en mettre un troisième poste dans le sous-sol, etc. De sorte que le monde, il est maintenant partout. Dans du grenier au sous-sol. Mais nous n'aimons pas le monde. Nous sommes séparés du monde. Le Québec se réveille. Le Québec se christianise. Oui. Et le monde s'infiltre partout. Et on est tellement imprégné de tout ce qu'on voit dans le monde. Qu'on pense qu'on peut prendre tous ces moyens-là pour annoncer l'évangile. Et l'on ne se tient plus à l'écoute. Pour écouter ce que Dieu a à nous dire et comment il veut que nous soyons. Je reviens à cette femme de Monaco, qui était la femme d'un grand banquier. Et elle ne faisait cette confession que pendant des années, tant que son mari était riche, elle avait son entrée dans tous les salons de la principauté. Et alors elle était bien reçue, mais elle disait, il fallait que j'aie ma nouvelle robe pour me présenter là, parce qu'il faut quelqu'un. Il fallait que je connaisse les derniers films, que j'aie lu les derniers romans pour avoir une conversation, pour briller dans le monde. Ah, le jour du monde, il est dur. Et quel sacrifice on fait quand on veut vraiment vivre selon le monde. Le monde, oui. Et puis qu'est-ce qu'il nous donne à la suite? Quand son mari a tout perdu au jeu de Monaco, eh bien, elle me disait tout une fois, je me perdais, plus personne ne me connaissait. Et elle me disait, j'avais 35 ans à ce moment-là, oh, dites-leur au jeu, que seul le jour de Jésus, tout, c'est vrai, je veux prendre ça. Seul le jour de Jésus est tout, le jour du monde. Il est écrit. Eh bien, là aussi, il gagne. Ah, le jour du monde, il est dur. Et quel sacrifice on fait quand on veut vraiment vivre selon le monde. Le monde, oui. Et puis, qu'est-ce qu'il nous donne à la suite? Quand son mari a tout perdu au jeu de Monaco, eh bien, elle me disait toutes les portes sont fermées, plus personne ne me connaissait. Et elle me disait, j'avais 35 ans à ce moment-là, oh, dites-leur au jeu, que seul le jour de Jésus, c'est tout. C'est vrai, je le transmets. Seul le jour de Jésus est tout, le jour du monde. Il est écrasant. Eh bien, là aussi, il y a une contrefaçon. Jésus nous a bien montré ce qu'était le monde, et puis il dit, moi, je ne vous donne pas comme le monde. Non. Le monde a l'air de vous donner quelque chose, mais il ne vous donne rien. C'est pour vous prendre. c'est pour vous posséder. Et quand il vous aura pressé comme un citron, et qu'il n'y a plus rien, il aura jeté le citron. Vous savez très bien que quand vous aurez tout donné au monde, quelque monde vous donnera un trou. Et vous vous réjouissez avec Jacques Brel. Hein. Et je veux qu'on chante et je veux qu'on danse quand on me mettra dans un trou. C'est ça ce que le monde peut vous donner finalement. Il ne vous supporte pas comme cadavre. Alors, on vous mettra dans le trou. Mais avant, vous aurez été exposé. Hein. Vous aurez un dernier beau moment. Exposition. Quel beau moment. Quelle que soit la valeur du cercueil. Voilà ce que le monde donne. Jésus, il nous a donné sa vie pour nous acquérir une place dans le ciel. Est-ce que cela nous dirige pour vous? Et vous savez comment le monde a traité Jésus? Comment pouvez-vous vaincre le monde? C'est ennemi que le monde où il y a toutes ces convoitises. Regardez ce que le monde a fait. Il y a eu une heure dans l'humanité où l'on a pu voir Dieu marcher et parler sur la terre. Quelqu'un qui resplendissait de la gloire de Dieu. Quelqu'un en qui on pouvait voir, non pas sur des tables de pierre, mais la réalisation de tous les commandements de Dieu. Depuis un seul Dieu, tu adoras et tu ne convoiteras point. Tout cela était manifesté en Jésus. Eh bien, ce seul être est mort. Qu'est-ce que le monde n'a pas fait? On l'a haï encore. Parce qu'il aimait son père. Parce que sa vie était à la gloire de Dieu, cette vie gênait les autres. Pas simplement ses paroles, mais sa vie. Et il a fallu le détruire. Et si réellement vous rendez témoignage, et j'insiste sur ce fait, parce que l'Écriture qui dit, si vous rendez témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises, le monde vous haïra. Mais Jésus le disait à ses propres frères, le monde ne peut pas vous haïr, mais moi il me hait, parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jésus était un gêneur. Sa vie est condamnée. Et la vie d'un chrétien authentique, elle condamne. Qui ne vit pas selon l'Écriture. Et ceux qui se sont le plus violemment dressés contre Jésus sont justement des gens religieux. Et qui avaient la prétention de représenter Dieu. Eh bien, mes amis, que nous puissions revenir à la parole et nous libérer de ces caricatures ou de Satan qui est un ennemi réel, mais vaincu, ou du monde qui est un ennemi réel, mais que le Seigneur a vaincu, car il a dit, j'ai vaincu le monde. Mais vous n'aurez la victoire sur Satan qu'en restant en Jésus, et qu'en laissant Jésus répondre aux tentateurs. Vous n'aurez la victoire sur le monde qu'en demeurant en lui, et qu'en vous souvenant de ce que le monde a fait à Jésus. Ils l'ont fait mourir. Ils l'ont crucifié. Et vous n'apprendrez à connaître le monde que par Jésus, si je veux savoir ce qu'est le monde. Et ce que peut être l'amitié du monde, j'ai d'abord ce que le monde a fait à Jésus. Le monde a un prince qui est un menteur et un meurtrier. Et ça, c'est le signe du satanisme, le mensonge et le meurtre. Or, que voyez-vous aujourd'hui dans le monde? Le mensonge. C'est le signe de Satan, le prince de ce monde. Alors, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, que cette parole ait autorité sur votre cœur. Mais alors, pour vous détacher du monde, eh bien, demandez au Seigneur. N'ayez pas de repos spirituellement, qu'il ne vous donne rien. Cette révélation qui est venue dans le monde. Pour nous apprendre à connaître Dieu d'une façon merveilleuse. Celui qui m'a vu a vu aussi mon Père. Et quand le Seigneur nous a conduits jusqu'à mon Père, parce que c'est ça le vrai salut, c'est pas d'en rester à Jésus, Ah, mais moi, c'est Jésus, j'ai Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus. Pour certains, Jésus, c'est la dernière drogue. Après les autres drogues, on essaye la drogue Jésus. Ça nous fait faire un très bon malade. Mais ça veut dire. Jésus, quand il nous saisit, il ne nous garde pas pour lui, il nous conduit au Père. Il y a peut-être plusieurs chemins pour vous conduire à Jésus, mais il n'y a qu'un chemin qui nous conduit au Père, c'est Jésus. Et Jésus nous donne au Père, nous conduit au Père. C'est le Père qui nous a donné à son Fils pour que son Fils accomplisse l'œuvre de notre salut et ceux qu'il a sauvés ainsi, Jésus les donne à son Père. De sorte que maintenant nous appartenons et au Père et au Fils par la puissance. C'est la Trinité sainte qui vient habiter dans l'homme tout entier, comme nous l'avons entendu, l'homme est une Trinité, esprit, âme et corps, le Père invisible dans notre esprit, le Fils dans notre âme, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et le Saint-Esprit dans notre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit devient un être de nos sens. Ce ne sont plus nos sens qui nous domineront, mais l'Esprit qui dominera nos sens, et qui nous conduira jour après jour dans toute la vérité. Et la vérité, ce n'est pas un groupement particulier, c'est une personne. Et Jésus nous conduit, l'Esprit de Dieu nous conduit toujours à Jésus. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et alors notre frère a parlé de ce troisième ennemi, je n'ai pas besoin d'insister au sujet de la chair, mais là aussi il y a eu évidemment un camouflage. La chair, eh bien, cela nous a été dit d'une façon très précise, ça a été lu dans l'Écriture. Maintenant, nous savons ce qu'est la chair. Mais réellement, est-ce que vous savez? Est-ce que moi, je le sais? Est-ce que j'ai perdu mes illusions? Vous voyez Nicodème, quand il vient à Jésus, il est tout à fait fraternel. Il le salue comme un docteur en Israël. Nous savons que tu es un docteur en Israël. Et Jésus lui dit ceci. Tu ne nais pas de nouveau, tu peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il se faisait des illusions. Et nous pourrions peut-être nous faire des illusions si nous pensons qu'avec notre religion, avec notre piété, avec notre salut, ce salut qui ferait quelque chose alors que le salut est quelqu'un, et cette relation évidente avec quelqu'un. Être sauvé, c'est pas que j'ai été sauvé il y a 3 ans, c'est que je le suis aujourd'hui. Et que je le serai encore. Demain, et jusqu'à la fin, car je suis certain de cette arrivée, parce que c'est lui qui m'a lassé. Mais dans la communion avec lui, alors remettez-vous à lui. Mais comment est-ce qu'on se remet à lui? En l'aimant. Oh, pour l'aimer, chers amis, il faut vraiment avoir eu cette révélation de notre misère. De ce qu'est la chair. Il y avait un homme extrêmement pieux, droit, craignant Dieu, qui se retirait du mal. C'est Job. Vous connaissez son histoire, je ne vais pas vous la raconter, du reste, l'heure est tardive. Job était un homme craignant Dieu, mais pourtant, il ne se connaissait pas. Et je dirais que le livre de Job, ce n'est pas un travail sur la souffrance, pas du tout. Je dirais, c'est simplement, connais-toi toi-même. Voilà le thème du livre de Job. Job ne se connaissait pas lui-même. Il craignait Dieu, il avait beaucoup de bien, il était béni, mais il ne se connaissait pas lui-même. Et c'est pour cela que Dieu a permis toutes ses souffrances et toutes ses épreuves. Parce que tant qu'il a voulu se justifier, tant qu'il a voulu dire à ses amis, mais voilà ce que j'étais, lirez le chapitre 29 de Job. Je. C'est des jeux partout. Et il est conscient de sa piété, il est conscient de tout le bien qu'il a fait, et il met tout cela en avant. Puis quand Dieu a enfin parlé à Job, du sein du tourbillon, quand toutes les voix de ses années se sont tues, va-t-il dire. J'ai parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi, de merveilles qui me dépassent. Maintenant, j'ai horreur de moi. Je me repens dans la poussière. Quand on a été mis en contact avec Dieu, on a l'horreur de soi. Job, l'homme stupide, arrive à avoir horreur de lui. Ésaïe, l'homme consacré au Seigneur, il dit, mes lèvres sont impures. Daniel, l'homme si fidèle qu'on ne pouvait rien trouver contre lui. Quand je le dis, mon teint frais se change à corruption. L'apôtre Pierre, retire-toi de moi, je suis un pécheur. L'apôtre Jean, le plus doux qui m'était bon, la tête sur le sein du Seigneur, pitié. Quand je le vis, je tombais là, comme mort. Oui. Les chemins qui montent dans l'écriture sont ceux qui descendent, c'est vrai. Mais alors que fait le Seigneur quand vous tombez là comme mort? Et il mit sa droite sur moi. Et c'est lui qui me relève. J'ai été mort et je suis vivant au siècle des siècles. Et si nous sommes debout maintenant, c'est parce qu'il nous tient debout. Laissez-vous saisir par le Seigneur. Lui ne vous tiendra pas debout et fera que par son esprit en vous, toutes les œuvres qu'il désire vous voir accomplir, c'est son esprit en vous qui les accomplira. C'est son esprit en vous, ce n'est pas vous, ce n'est pas les œuvres de la chair, parce que les œuvres de la chair, nous avons tellement. Mais c'est le fruit de l'esprit qui sera manifesté en vous. Ce fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, cet ensemble de toutes les grâces qui donne aux croyants une personnalité attrayante dans laquelle le monde reconnaît quelque chose de curieux. C'est le fruit de l'esprit. Et alors, ce que j'ai compris de plus en plus dans ma pauvre vie, c'est que ce que Paul dit prier sans cesse, c'est une évidence maintenant. C'est pas une exhortation comme ça qu'il fait, c'est qu'il n'y a pas d'autre vie que cette prière continuelle. Parce que c'est dans tous les domaines que je dois crier au Seigneur. Seigneur, réponds pour moi. Seigneur, prends la décision pour moi. Moi, je ne sais rien, je ne suis rien. Je m'en remets à toi. Vous direz, mais c'est pas possible, c'est ça. Oui. Il nous prend à chaque entièrement. Et c'est lui qui nous porte, c'est lui nous qui porte le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous porte. Et c'est ainsi que vous avez réellement le repos de vos âmes. Mais à chaque instant, eh bien, vous prierez sur le chemin, vous prierez sur la route, vous aurez vos moments de prière, vous aurez vos réunions de prière. Mais ce qui vous deviendra habituel, c'est ce cri vers Dieu, c'est la respiration vraiment de votre âme. Il n'y a pas un domaine dans lequel vous ne ferez pas entrer le Seigneur. Et c'est cela qui vous donnera la vie en abondance. Car c'est ce qui est arrivé à Job quand il a pu dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil, t'as vu, qu'est-ce qu'il a reçu? Tout au double. La vie en abondance. La vie, on l'a dès qu'on croit au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais la vie en abondance, eh bien, ce n'est pas simplement d'avoir entendu parler de lui et d'avoir cru en lui, mais c'est de le connaître lui et dans sa connaissance de s'être effondré comme sol de Tarse aussi et d'avoir découvert qu'il n'y a qu'un centre qui puisse être l'objet de mes affections, Jésus glorifié dans ce ciel. Jésus seul sujet de gloire. Et justement, pour que cette vie de Jésus puisse se manifester dans ma chair mortelle, c'est par sa mort appliquée, comme notre frère nous l'a dit, dans tous les domaines, que la vie de Jésus peut se manifester. Voilà qu'il y a une convoitise, voilà qu'il y a, Seigneur, je suis mort. Seigneur, je suis mort, tu l'as dit. Alors évidemment, au début, c'est peut-être un peu violent, ça. Mais si vous y croyez, eh bien, ça devient de plus en plus doux. Et ça devient une réalité. Et vos cœurs, alors, s'affectionnent, comme c'était dit dans le Colossiens, aux choses qui sont en haut, et ce que vous attendez, ce n'est pas une belle situation dans le monde, ce que vous attendez, c'est le Seigneur. Et vous savez qu'en attendant le Seigneur, vous aurez tout ce qui vous est nécessaire. Eh bien, que le Seigneur nous montre qu'il est venu pour nous libérer de nos ennemis, de Satan, du monde, mais aussi de la chair. Cette chair si faible est Pierre, c'est mon dernier mot, l'a expérimenté quand notre frère a cité Pierre. Il dit, Seigneur, quand tout t'abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai pas. Il disait, mais Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Qu'est-ce qui nous manquait? C'est qu'il n'a pas dit un menteur, qu'il n'a pas tout quitté. Non, il avait tout quitté, mais il ne s'était pas quitté. Il était sûr de lui. Et c'était ça votre danger. Plus j'avance dans la vie chrétienne, plus je me défie de moi-même. Et plus je me confie dans l'autre. Ma vraie vie, chers amis, c'est pas celle de la racine. Celle de racine, elle est à la voie. Elle est en vie de vie. Avec. De sorte que ma vraie vie, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est en le regardant lui que j'ai le droit de dire sa vérité que je vois en lui, sa justice que je vois en lui, sa sainteté que je vois en lui, son amour que je vois en lui. Là, je peux dire, c'est cela ma vie. Mais quand je me regarde moi, bien, je vois toujours le pauvre. La pauvre créature. Mais cette pauvre créature, vous devez reconnaître qu'elle a été crucifiée avec Christ. Et elle a été même ensevelie. Alors n'allez pas être cadavre pour voir si ça va mieux. Un cadavre, ils se corrompt. Mais nous, nous sommes là comme Abraham. Il ne se levait pas de devant son mort. Il regardait sa Sarah. Et pour finir, il a dit, et Abraham se leva de devant son mort. Finissez-en avec vous-même. Vous n'allez pas vous améliorer. Si vous êtes découragé de vous-même, c'est un bon signe. Hein? C'est un bon signe ce soir. Mais alors cessez de vous garder vous-même. Et regardez le Seigneur. C'est lui qui est votre vie. Et pensez à une chose. C'est que quand Dieu vous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il vous voit à travers les perfections de son. Il ne vous voit pas comme vous, vous vous voyez quand vous vous regardez. Dieu, votre Dieu, celui qui aura le dernier mot, il vous voit déjà dans les perfections. Est-ce que vous le croyez ça? Est-ce que vous le croyez? C'est cela le salut par la foi. Le salut actuel, sauvé par la foi et pour la foi. Au lieu de vous regarder vous-même misérable, vous avez renoncé à vous-même, vous êtes pécheur et pas un pécheur en peinture, un vrai pécheur. Moi, je suis pas un pécheur en peinture. Mais j'ai aussi un vrai sauveur, mais pas un sauveur en peinture. J'ai un vrai sauveur qui est mort pour moi. Et je sais que c'est vrai, que c'est un fait qui ne peut pas être des faits. Et je sais que maintenant, Dieu me voit au travers des perfections. Que nous dit la parole. Nous avons été rendus agréables dans bien-aimé. Voilà mon seul sujet de joie. Je ne puis pas me glorifier. Car s'il y a quelques biens produits dans ma vie, ce ne sont pas mes fruits, c'est les fruits de l'esprit. Et si le monde peut voir quelque chose de Christ en moi, ce n'est pas de moi qui soit, c'est Christ. Alors que dans sa grâce, il nous doit donner le comprendre ces choses. Qu'elles nous deviennent de plus en plus familières et que nous nous attachions à ces choses qui sont en haut. Et c'est comme ça que nous désirons amener notre vrai chez nous qui est là-haut. C'est ça que vous désirez. Oh, je ne désire pas mourir. On en parlera demain. C'est pas la mort, c'est un ennemi la mort aussi. Mais je désire vivre parce qu'il faut vivre, il en vaut. l'éternel. Mais vivre non pas dans la puissance de la chair, mais dans la puissance de l'esprit, pour que du fruit soit produit en lui. Que la grâce du Seigneur nous soit donnée, nous prions. Ô notre Dieu, à la fin de cette journée, nous voulons te demander que ta parole que nous avons méditée soit vraiment pour nous l'autorité suprême, que nous cessions de regarder à ce que nous ressentons, à nos sentiments, et que nous puissions nous abandonner. Si nous n'éprouvons pas ta présence, donne-nous de nous rendre compte que c'est nous qui nous sommes élevés, que nous sommes trop. Amène-nous à cette vraie humiliation, à cette vraie repentance. Si nous sommes encore des gens contents de nous-mêmes, amène-nous comme Job, par la souffrance que tu voudras, à reconnaître notre néant, notre pauvreté, qu'il n'y ait pas parmi nous de ces Laodicéens qui disent « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Seigneur, donne-nous, au contraire, de reconnaître notre misère. Car c'est quand nous reconnaissons notre misère que la miséricorde vient à nous. C'est quand nous reconnaissons notre péché que la sainteté est donnée. Oh, que ta grâce opère tout cela en nous. Nous te remettons ta parole. Nous te remettons chacune de ces âmes qui nous sont si chères, sont précieuses, et dont nous aurons un jour à répondre devant toi, au sujet de cette soirée, que nul ne puisse être repoussé, mais que tous puissent sentir accueillis. Père, tu es le Père de tous les chroniques, de tous ceux qui reviennent en disant j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donne-nous de nous laisser embrasser de ce baiser du pardon, de la réconciliation, et que tu nous entraînes dans la maison, nous revêtant de la plus belle robe, mettant ton anneau à notre doigt et descendant à de nos pieds, et que nous puissions terminer cette conférence dans une vraie joie. La joie que le ciel possède quand il voit des âmes sur la terre qui se couvrent, pour que le Seigneur soit élevé, qui accepte de diminuer, pour que le Christ soit grand en Dieu, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Nous savons que cette rencontre ne se termine pas, tu la poursuivras dans le silence des cœurs, et tu agiras ce soir, et tu donneras ton réveil à nos âmes, pour que lorsque nous retournerons dans nos milieux respectifs, nous puissions être de ceux non pas qui parlent des hommes qu'ils ont pu entendre, mais de Jésus, et de Jésus, comme sur la sainte montagne, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul, avec eux, qu'il en soit ainsi, notre Dieu. Au nom de ton Fils, bien-aimé, que tu nous as donné, pour que nous aussi, nous goûtions.